Bonjour à toutes et à toutes, vous écoutez l'épisode 38 des Dessous de la cosmétique, le podcast qui vous dévoile et vous explique avec clarté et sincérité le monde de la cosmétique. Je suis Julie Magan-Castel et mon pronom est elle. Je suis biologiste, chimiste et cofondatrice de son bio actif et sensoriel Mastel. Et aujourd'hui, je ne suis pas toute seule. On retrouve Jeanne qui accompagne les futurs élèves vers des formations de l'industrie cosmétique et son pronom est elle. Nous allons discuter de son parcours et de ses nombreux projets. Et bien sûr, nous allons discuter des différentes formations de l'industrie cosmétique et leur processus d'admission. Bon bah hello Jeanne, merci beaucoup d'être là.
Coucou Julie, ça me fait plaisir moi aussi d'être là, merci de m'avoir invitée.
Ah, merci d'avoir accepté l'invitation. Alors Jeanne, tu es une professionnelle du développement cosmétique et tu partages tes conseils aux futurs élèves de cette industrie sur ton blog et sur ton compte Insta qui s'appelle Le Rouge Beige Jeanne.
Exactement.
Tu vas même encore plus loin dans tes conseils parce que tu proposes un accompagnement aux futurs élèves, donc ça s'appelle le Rouge Beauty Club, que tu proposes, j'ai vu sur ton site, et tu as toujours mille et un projets. Moi, je t'admire pour toute la multitude de projets que tu as en cours à chaque fois. La première partie de ce podcast, on va parler de tous tes projets, de toi, de ton parcours, et la deuxième partie, on va parler des écoles en cosmétique, et tu vas pouvoir nous donner tes conseils sur comment les intégrer.
Super.
Première question assez classique, hein, mais est-ce que tu peux te présenter ton parcours professionnel, personnel, tous tes projets, etc.
Oui, bien sûr. Alors, du coup, je m'appelle Jeanne. Je travaille dans la cosmétique depuis, je ne sais plus exactement, mais plusieurs années. Alors, j'ai toujours voulu travailler dans la beauté et j'ai toujours été une scientifique. J'ai toujours aimé les sciences. Donc, quand je suis arrivée à la fac, donc, j'ai fait une licence de chimie. Et lors de cette licence, j'ai eu l'occasion de faire un UE cosmétique qui m'a vraiment beaucoup plu. Et ça m'a permis après d'intégrer en partie les ICA parce que c'est vrai que c'est le genre d'école qu'on intègre quand on montre une appétence particulière pour la cosmétique. Et moi, le fait que j'ai eu l'occasion de faire cette UE, ça a renforcé un petit peu mon dossier. Donc, j'ai voulu faire les ICA parce que pour moi, c'était la meilleure école dans le domaine. Elle a une histoire incroyable. Elle a été fondée par Jean-Jacques Guerlain. Enfin, forcément, ça met des paillettes dans les yeux. Et aussi parce que je me disais que j'avais envie de me donner toutes les chances pour réussir dans ce milieu, parce que sur Internet, ce que je disais, c'était que c'était un milieu qui était très bouché, qui était très difficile d'accès. Et je me disais que si je me donne pas tout, les meilleures options d'école, les meilleures options de stage, etc., effectivement, j'aurais peut-être un peu plus de difficultés. Donc j'ai passé les examens d'entrée à l'ISICA, j'ai été prise. Et j'ai fait 2 ans d'alternance chez LVMH Recherche. Donc, j'étais en master de formulation et évaluation cosmétique. Donc, le FESIPCA, donc, a été modifié par la suite. Ça a été 2 années incroyables. J'ai vraiment adoré. Et encore aujourd'hui, quand j'ai l'occasion de retourner en laboratoire, c'est toujours des superbes moments. En revanche, ça m'a également permis de comprendre que j'avais pas forcément envie de rester dans un laboratoire toute ma vie, que j'avais envie de voir un petit peu ce qui se passait à l'extérieur, d'être peut-être aussi plus force de proposition quant au développement que je faisais. Et j'ai donc décidé de continuer mes études. Donc, après ces 2 années de master, j'ai refait 1 année de master en marketing, toujours en alternance. Et là, donc, c'était un master qui était en partenariat avec l'ESSEC, donc une superbe grande école. Et j'étais en alternance chez un sous-traitant, un grand sous-traitant français. Et donc, j'élaborais des collections qui ensuite étaient présentées à nos clients, donc à toutes les marques cosmétiques qu'on connaît aujourd'hui et qu'on voit sur les réseaux sociaux. Donc, je suis restée dans la sous-traitance quand même quelques années. Puis ensuite, il y a eu le Covid, chômage partiel, licenciement économique. Et en fait, à ce moment-là, j'ai décidé de me lancer à mon compte parce que c'était un moment quand même particulier pour l'industrie. Il n'y avait plus grand-chose qui bougeait, hormis les indie brands. Les indie brands ont continué à faire des trucs incroyables. Et du coup, je me suis lancée à mon compte en tant que consultante. Et donc, j'aidais des marques à se lancer, à développer leurs produits et également à se développer sur les réseaux sociaux. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai rencontré le fondateur d'un incubateur qui s'appelle The Colors. Et donc, on s'est associés dans cette activité. Et donc, ça m'a permis d'avoir plus de marques avec qui donc je collaborais pour des lancements, pour du consulting, voilà, pour tout un tas de projets. J'ai également fait des conférences avec The Colors. Donc voilà, ça a été vraiment une superbe aventure. Et puis ensuite, donc j'ai commencé à travailler pour une marque qui développe des produits pour les peaux foncées. Donc, pour éviter tout conflit d'intérêt, j'ai arrêté donc de m'occuper des marques The Colors, mais je continue quand même à animer le réseau The Colors, qui est un superbe réseau avec énormément de marques multiculturelles, inclusives. Et on fait quand même des choses assez incroyables dans l'industrie de la beauté pour faire connaître et reconnaître l'afro-beauty. Donc voilà pour cette partie. À côté de ça, j'ai aussi créé une association qui s'appelle YPB et qui nous permet d'aider tous les jeunes professionnels de la beauté. On crée des événements en partenariat avec des marques, plein de marques plus belles les unes que les autres, soit en physique, soit en digital. Et on a une communauté donc d'adhérents de plus de 100 personnes et une communauté au sens large de plusieurs milliers de personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, Instagram ou autres. Et à côté de ça, comme tu l'as dit, j'ai mon blog que j'ai créé quand j'étais à l'IUCA et qui me permet d'aider les jeunes étudiants qui, comme moi, se sont retrouvés dans cette industrie sans vraiment savoir comment faire. Et donc voilà, j'essaie de leur donner quelques clés pour accéder aux meilleures écoles et avoir les meilleurs parcours qui soient.
En fait, j'ai l'impression que dans tous tes projets, c'est vraiment du partage. Que ce soit The Colors, où c'est un incubateur où tu aides des jeunes marques, que ce soit Young Professional in Beauty, où là, c'est vraiment un réseau de jeunes entrepreneurs, ou que ce soit avec ton blog, où tu accompagnes les futurs étudiants. En fait, j'ai l'impression que tous tes projets, c'est autour de l'accompagnement et de très en amont, même avant l'accès à cette industrie, avant les études, par ton blog, jusqu'à après avec Young Professional in Beauty, que là, ce soit des personnes salariées ou alors même entrepreneuses avec The Colors. En fait, tu as vraiment une vision très large de l'industrie et des personnes qui travaillent.
Exactement. Et c'est vrai que je pense que s'il y a vraiment un truc qui peut me résumer, c'est que j'aime bien aider les gens, j'aime bien... Je pense que ma passion, c'est vraiment de transmettre. Moi, j'adorerais faire des cours, genre donner des cours à des gens. Vraiment, c'est quelque chose que j'adorerais. Et j'ai envie de donner de la valeur aux gens, en fait. Je pense que les gens qui veulent garder des savoirs et du coup qui refusent de partager ces informations, je trouve ça tellement dommage parce que quand ces personnes partent, et on en a tous rencontré des gens comme ça en entreprise, qui refusent de donner des conseils, qui sont vraiment toujours très vagues quand on leur demande, on leur pose des questions. Et quand ces personnes partent, en fait, il y a une perte d'informations incroyable. Et du coup, moi, j'ai pas envie d'être comme ça. Je pense que aujourd'hui, en plus, le savoir, on peut l'avoir très facilement quand on a Internet. On a juste à taper sur Google, on trouve toutes les informations qu'on veut. Donc, il y a plus rien à cacher, en fait. Tout ce que je sais, je le sais parce qu'on me l'a transmis. Et si moi, je peux le transmettre, je le fais avec plaisir.
Super. Sur Google, je suis d'accord que tu peux voir, par exemple, plein de recherches, plein d'études au niveau scientifique de ce qui a été fait. Donc, des connaissances très pratico-pratiques, tu les as un petit peu moins, je trouve. Tu trouves facilement le théorique, mais des connaissances dans l'industrie, je trouve que c'est un petit peu plus compliqué. Et le fait que tu crées des réseaux, voire de l'accompagnement, c'est ça aussi qui peut donner la confiance pour aller dans cette industrie. Parce que je trouve que quelque chose que tu as déjà fait, tu as toujours plus de facile à le faire. Une fois que tu l'as fait une fois, c'est bon, tu sais faire, tu es une pro. Mais avant de le faire, même si tu as pu faire plein de formations au préalable, tant que tu ne l'as pas fait une première fois, je trouve que tu es toujours un petit peu tremblotant, tu vois, la première fois que tu le fais.
Ouais, c'est vrai. Non, mais tu as totalement raison. Et d'ailleurs, ça me fait penser à nos études parce que quand j'étais à l'école, j'ai appris à développer un produit. J'ai appris toutes les étapes. J'ai appris à faire un dossier d'information produit. J'ai vraiment tout appris. Mais en fait, le jour où j'ai été confrontée concrètement à ces problématiques, en fait, finalement, j'ai galéré un petit peu. Parce que finalement, on te dit pas, il faut que tu appelles telle ou telle entreprise. Il faut que tu écrives telle ou telle chose. Donc, en fait, mine de rien, même si tu sais théoriquement que le DIP, il sert à ça, qu'il y a toutes ces parties dans le DIP, tu sais pas vraiment comment le construire, tu sais pas vraiment qui appeler pour le faire, tu sais pas vraiment. Enfin, en fait, tant que tu l'as pas fait, tu sais pas vraiment. Donc, effectivement, avoir des relais d'informations, avoir des gens qui peuvent t'aider et répondre à toutes tes questions, c'est hyper important. Et donc, c'est ce qu'on essaye de faire avec The Colors, avec Young Professionals in Beauty, c'est ce que j'essaye de faire sur mon blog aussi. Et à mon niveau, de partager de l'information. J'ai vraiment pas la science infuse, mais les petites informations que je connais, je sais qu'elles peuvent être utiles à certaines personnes, notamment pour l'ISIPCA ou l'ESP, enfin, les étudiants qui passent des examens pour rentrer dans des écoles qui sont très sélectes. Avant que je crée mon blog, il n'y avait pas d'anal. Moi, quand j'ai fait l'IDIPCA, je me rappelle qu'il y avait un forum à l'époque où les gens mettaient les questions sur lesquelles ils étaient tombés, enfin celles dont ils se rappelaient. Et en fait, à part ça, c'était très compliqué de se renseigner sur l'examen qu'on allait passer, sur les différentes questions qui allaient tomber, et en fait, de se préparer. Et quand on habite en province, comme moi, j'habite en province, on n'a pas forcément accès aux événements culturels, enfin dans la culture de la cosmétique. Comme enfin les gens qui habitent à Paris, par exemple, tous les étés, il y a Chanel qui fait un truc aux Tuileries. Bah, t'habites à Paris, tu y vas, quoi. Moi, j'habite au fin fond de la Normandie. Je sais même pas qu'il y a un truc aux Tuileries avec Chanel. Donc voilà, c'est tout ça que j'essaye de mettre à portée de tout le monde, en fait.
Ok, trop génial. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton accompagnement que tu proposes sur ton blog ?
Alors du coup, sur mon blog, quand je l'ai commencé, je mettais uniquement... en fait, à la base, je voulais que ce soit un blog un peu de cosmétiques où je teste des produits. Donc ça n'a pas fonctionné. Je pense qu'il y avait le marché était déjà saturé. Et donc en fait, la première chose que j'ai mise dessus, c'était les questions que j'avais révisées pour passer mon examen d'entrée à l'ISIPCA. Et c'est comme ça que les annales se sont créées en fait, parce que je me suis rendu compte que cet article... qui était vraiment mes articles bruts avec juste des questions de chimie, de culture générale cosmétique, et ben en fait, il avait fait des milliers de vues l'année suivante parce que les gens qui préparaient le même examen que j'avais fait moi l'année d'avant, pour eux, c'était une mine d'informations que j'avais créée. Et donc, à ce moment-là, en fait, les gens ont commencé à m'envoyer les questions sur lesquelles ils tombaient. Et donc, c'est comme ça que j'ai pu, année après année, continuer à alimenter les annales. Donc, il y a cette partie-là qui est sur mon blog gratuite. Donc, toutes les personnes qui veulent travailler dans la cosmétique, qui ont des examens à préparer, donc notamment l'ISIPCA ou l'ESP, peuvent venir sur le blog et trouver les annales de ces écoles gratuitement. Il y a plusieurs formations qu'on peut trouver sur le blog. Il y a les licences, il y a les masters. Il y a certaines autres formations également qu'on m'envoie et donc que je publie. Et ça qui est entièrement gratuit et qui restera gratuit parce que c'est vraiment comme ça que le blog a été construit à la base. Ensuite, j'ai développé d'autres produits, entre guillemets, qui sont payants parce que ça me prend plus de temps et que pour le coup, c'est vraiment un second job, voire un troisième job parce que j'ai vraiment plusieurs casquettes. Donc, dans ces produits, les gens peuvent prendre un abonnement sur le Rouge Beauty Club. Donc, c'est un abonnement qui coûte 9€ par mois, qui peut être annulé à tout moment. On peut s'abonner pendant un mois et avoir accès à tout le contenu, tout télécharger, puis après annuler l'abonnement le mois d'après en ayant eu accès à tout. Et en fait, l'idée du Rouge Beauty Club, c'est d'avoir des annales corrigées, parce que les annales qui sont sur le blog, en fait, ne sont pas corrigées. C'est juste les questions brutes qu'on m'envoie, que je ne corrige pas parce que ça prend beaucoup de temps. Chaque année, il y a je sais pas, une soixantaine de questions à chaque fois, voire plus parce qu'il y a plusieurs formations. Et donc, moi, je vais venir en corriger certains. Je corrige pas tout parce que, pareil, ça prend un temps incalculable de faire ça. Mais du coup, c'est pour ça que ça se retrouve sur le Rouge Beauty Club en option payante. Ensuite, il y a des revues d'actualité mensuelles. Donc, les gens peuvent s'abonner et avoir accès à des informations sur l'industrie qui sont au-delà des informations qu'on peut retrouver dans la presse féminine, comme on l'appelle, sur laquelle on trouve quand même beaucoup d'informations sur les nouveaux lancements, sur les marques, etc. Mais on ne va pas forcément trouver les informations sur les rachats, par exemple, qui se font dans l'industrie, sur les noms des CEO, sur des choses un petit peu plus techniques et qui sont des questions qui tombent régulièrement aux examens des écoles qui sont spécialisées dans la beauté. Et il y a également des coachings qui sont à tarif réduit. Donc, quand on est dans le Rouge Beauty Club, donc il y a à peu près 30% de réduction par rapport au tarif normal. N'importe qui peut réserver un coaching sans être dans le Rouge Beauty Club, mais effectivement, ce sera un petit peu plus cher. C'est toujours quand même assez accessible pour des étudiants. Le but, c'est vraiment que quelqu'un puisse avoir un accompagnement personnalisé, mais accessible. Donc, soit on prend un coaching de 30 minutes, à 25€, si c'est quelque chose d'assez rapide, on va dire, parce que c'est vrai que pour un coaching, 30 minutes, c'est très, très rapide. Donc, il faut que la personne sache exactement ce qu'elle veut me demander pour que ce soit efficace pour elle. Soit une heure, et dans ce cas-là, le coaching coûte 45€. Et là, ça me permet un peu plus de faire quelque chose de complet, en fait. Parfois, on révise même des galéniques, parce que lors des examens oraux, parfois, il y a des questions en fait sur les différentes galéniques des produits cosmétiques. Donc, ça me permet de faire un tour d'horizon de toutes les galéniques, d'expliquer un petit peu les spécificités, les pièges, etc. Donc voilà. Et En général, les gens m'envoient quand même des questions avant le coaching, ce qui me permet, moi, de cibler un petit peu ce que je vais leur dire pour être plus efficace, tout simplement. Et puis après, voilà, dans tous les cas, l'heure de coaching est ouverte à toutes les autres questions qui ne m'ont pas envoyé, qui leur vient pendant le coaching. Donc voilà, et après, les gens peuvent aussi reprendre des coachings par la suite. Ça arrive aussi régulièrement que certaines personnes prennent 2 ou 3 coachings pour vraiment être prêts à fond pour leurs euros.
Et du coup, tu accompagnes les élèves, qu'ils soient scientifiques et marketing, ou seulement tu accompagnes les personnes qui veulent se diriger vers des horizons plus marketing ou plus scientifiques? Comment ça se passe?
Alors, j'accompagne tous les étudiants, qu'ils soient scientifiques ou marketing, qui cherchent à s'orienter vers une licence ou vers un master. Après, j'ai quand même beaucoup plus d'étudiants scientifiques que marketing, mais je pense que c'est à cause de la nature des examens, en fait, parce que les étudiants vont venir sur le blog pour avoir les annales. Ça leur permet d'avoir une culture générale, etc. En revanche, ceux qui ont des examens d'entrée assez poussés, c'est plutôt les scientifiques. Étant donné qu'il n'y a pas ce type d'examen pour les filières marketing, du coup, ils ont un petit peu moins besoin de moi.
D'accord. Est-ce que du coup, tu peux nous dire un petit peu sur l'ISIPCA? Je pense que c'est majoritairement l'ISIPCA où il y a les annales sur ton blog. Quels sont le processus d'admission? Comment faire si on est un élève et qu'on veut justement candidater?
Alors, sur l'ISIPCA, le processus d'admission, il change un petit peu. Tous les ans, il y a des choses qui changent parce qu'il va y avoir des formations qui sont accessibles via les plateformes. Donc maintenant, c'est plus admission, plus post-bac. Je crois que c'est... je ne me rappelle même plus du nom de la plateforme maintenant. Tu sais, pour les admissions après le bac.
C'est pas APB, non?
Non, ça a changé.
Il y a une nouvelle plateforme.
Ouais, il y a une nouvelle plateforme. Bon, je me rappelle plus le nom, ça me vieillit du coup, mais bref, c'est pas grave. Et du coup, donc, soit tu as les formations qui sont accessibles via cette plateforme parce que ce sont des masters, donc par exemple le MPNC, soit tu as des formations qui sont accessibles en fait via la plateforme de l'ISIPCA parce que ce sont des MSC, donc c'est pas des masters en soi. Tu as un niveau Bac plus 5 à la sortie. Mais ce n'est pas un master dans le sens LMD, licence, master, doctorat du terme, quoi. C'est un bac plus 5, quoi. Mais après, dans l'industrie, ça ne change pas grand-chose parce que l'école est reconnue, donc il n'y a pas de changement. Mais après, il y a des dates, par contre, d'admission pour toutes ces formations. Pour les MSC, du coup, de l'ISIPCA, je sais que les premières sessions ont déjà commencé. Il me semble que les admissions pour le MSC2, c'était en février, enfin pour envoyer son dossier. Pour le MSC1, donc le master, enfin le MSC manager des process de création et développement des produits parfums, cosmétiques et aromatiques alimentaires, donc qui a remplacé le master que moi j'ai fait, qui était le master Physica. Donc les admissions en première année, je crois qu'elles sont clôturées depuis une semaine à peu près. Les dossiers d'admission. Là maintenant, donc les personnes qui vont être acceptées à l'issue de ce premier choix, donc sur dossier, vont passer des examens écrits. Depuis le Covid, les examens se font en distanciel et c'est devenu un truc de malade parce que c'est hyper compliqué. Moi, je sais pas si j'aurais réussi en distanciel parce qu'en fait, ça va hyper vite pour ne pas permettre aux gens de tricher, en fait, tout simplement. Parce que comme on est chez soi, on est devant son ordinateur, on peut avoir des anti-sèches. Et pour éviter ça, en fait, il y a peut-être 10 secondes par question, en fait, pour répondre.
Donc, c'est vraiment. Je n'aurais même pas le temps de dire.
Non, mais franchement, c'est incroyable.
Parce que du coup, ça se passe comment? C'est un lien sur Internet, tu y vas et tu as un.
Ouais, c'est ça. Il y a une plateforme avec, du coup, un temps imparti pour répondre aux questions. Ouais, en fait, ça dépend. Il y a des années où, en gros, il y avait, je vais dire une bêtise, mais 30 minutes pour répondre à toutes les questions. Donc, en fait, on pouvait revenir en arrière, etc. Et il y a des années où, en fait, il y avait 30 secondes pour répondre à chaque question. Et du coup, une fois que les secondes sont passées, on peut pas retourner en arrière. Donc, ça dépend un petit peu des années. Ils changent un petit peu les règles. Donc, c'est vrai que c'est toujours assez difficile quand on me demande de décrire l'examen parce qu'en fait, je ne sais jamais vraiment à l'avance ce qu'ils vont faire. Et j'ai l'impression qu'ils changent aussi pour ne pas que les gens soient trop préparés. Et donc, Chaque année, donc, il y a plusieurs blocs. Selon la formation qu'on veut faire, on va avoir des blocs de culture générale qui vont plutôt se concentrer vers la cosmétique, la parfumerie ou l'aromatique alimentaire, ou les trois si on est en année 1 du MSc, qui est une année générale où on voit un petit peu tout. Ensuite, il va y avoir des questions de culture générale cosmétique, donc qui vont avoir un lien avec toute l'actualité de l'industrie de la cosmétique. Ensuite, il y a des questions de science, donc qui se base sur le programme de licence. Donc, si c'est pour faire le MSc, donc création et développement, qui a remplacé le Physica, c'est vraiment plus basé sur la chimie. En revanche, si c'est pour faire le MPNC, il y a une grosse partie biologie qu'il n'y aura pas dans le MSc. Donc, à chaque examen, il y a des spécificités. Si on est en MSc 2, il me semble qu'il y a même des questions de marketing. Nous, on n'avait pas de marketing à mon époque. Il y a aussi des questions en anglais. Donc voilà, l'examen a quand même beaucoup changé. Et chaque année, les questions sont plus ou moins renouvelées. Il y a des années où elles ne le sont pas trop, des années où elles le sont complètement. Donc, c'est vraiment important pour les gens de réviser les annales, parce que si c'est une année où les questions ne sont pas changées, c'est tout bénef pour eux. Et si c'est une année où les questions sont changées, du coup, l'idéal, c'est plutôt d'être dans le Rouge Beauty Club et d'avoir accès aux news que je mets sur l'actualité et qui sont du coup plus récentes que les annales qui datent de l'année d'avant.
Généralement, c'est les mêmes questions entre le nouveau du FESIPCA et le MPNC ou pas ?
Alors, les questions sont assez similaires pour la culture générale.
D'accord.
Et d'ailleurs, je trouve même que pour les licences, parce que c'est pareil, enfin, la culture générale, pour moi, elle ne change pas. À chaque fois, c'est les mêmes types de questions. En revanche, ça va changer sur le contenu des questions scientifiques. En MPNC, comme je le disais, on va avoir plus de biologie, alors que pour le MSc, il y a plus de chimie, beaucoup plus de chimie que de biologie. Et après, il y a aussi une partie mathématique avec des calculs de concentration, des produits en croix, etc.
OK.
Et puis, à l'issue des examens écrits, il y a évidemment les examens oraux avec un entretien devant un jury, parfois des professionnels, qui peut être très stressant pour les jeunes.
Ouais. Donc, un processus d'admission en trois étapes. D'abord, révision du dossier. Si on est accepté, on a un test écrit qui se fait sur Internet.
Ouais.
Et après, si on est accepté à ça, un test oral. Et
ouais,
après, l'admission.
Et après, l'admission. Et encore, c'est même pas fini parce qu'une fois admis, il faut trouver une entreprise, une alternance. Parce que si on n'a pas d'alternance, on n'est pas accepté dans la promotion. Enfin, ça a un petit peu changé parce que comme maintenant le MSc, il est accessible. Enfin, il dure 3 ans. Nous, c'était 2 ans. Là, le MSc, il est en 3 ans et la première année n'est pas en alternance. Donc, si on arrive en première année, on n'a pas besoin de chercher d'entreprise. C'est uniquement si on arrive à partir de la deuxième année où là, il faut chercher une entreprise directement. Après, ce qui est bien à l'ISIPCA, c'est que l'école aide vachement quand même. Il y a déjà, enfin moi, je me rappelle que j'avais une session de coaching pour faire son CV, sa lettre de motivation, contacter des entreprises, etc. J'avais eu un livret aussi pour m'aider vraiment à rédiger méthodiquement les lettres de motivation. Donc ça, c'est top. Et aussi, mon CV avait été envoyé à des entreprises partenaires de l'école. Donc ça, c'est juste incroyable quand on cherche une entreprise, d'avoir ce soutien de l'école. Et d'ailleurs, pour mon deuxième master, j'avais même pas cherché. En fait, on m'a proposé un entretien avec une entreprise que je connaissais pas du tout et j'ai été prise sans même postuler. Donc ça, pour le coup, je trouve que c'est quand même un point positif indéniable.
Génial. Moi aussi, j'ai fait l'ISIPCA et j'ai fait le master MPNC. Et lui, pareil, si on était admis, après, on avait des cours un petit peu de coaching sur comment candidater, comment faire sa lettre de motivation, faire son CV, même jusqu'à comment se tenir lorsqu'on avait son entretien. Je me rappelle qu'on avait une intervenante qui était assez stricte, qui nous disait « si vous n'avez pas mal au dos à la fin de l'entretien, c'est que vous n'étiez pas assez droite ». Donc, on avait un petit peu de coaching comme ça. Bon, c'était bien, ça remotivait parce que c'était quand même assez compliqué. En tout cas, moi, à mon époque, c'était quand même assez compliqué de trouver son alternance. Mm. Il me semble que moi, j'avais signé mon contrat après avoir fait 180 candidatures quand même. Hein.
Oh, ouais. Wow. Énorme.
Ouais, c'était quand même, il fallait de la patience et il fallait pas trop se démotiver non plus.
Ouais, en fait, c'est vrai que moi, quand je conseille des étudiants, je leur dis toujours que même si l'école aident à chercher, il faut quand même qu'eux-mêmes cherchent de leur côté, parce que au final, tous les ans, bah, y a des personnes qui cherchent pas forcément et qui se retrouvent soit très tardivement à trouver une entreprise, soit qui trouvent pas du tout. Moi, il y a une personne de ma promo qui, du coup, elle a été obligée de partir parce qu'elle n'avait pas trouvé d'entreprise en première année, quand on a commencé les IPCA. Donc, dans tous les cas, même si l'école va aider à trouver une entreprise pour, je sais pas, 10 élèves, il y a quand même 10 autres élèves qui vont bien devoir la trouver toute seule, quoi. Elle ne peut pas non plus trouver pour tout le monde, quoi. Donc, c'est un peu. Ouais, c'est vrai que c'est une période assez stressante et compliquée.
Ouais, c'est sûr. En plus, ce qui est intéressant, en fait, quand on fait de l'alternance, en tout cas à l'ISIPCA, c'est que les années de formation sont payantes. Et lorsqu'on a trouvé son entreprise, en fait, c'est l'entreprise, ou en tout cas l'OPCO de l'entreprise, qui va financer la formation. C'est-à-dire que pour l'élève, il n'y aura pas de frais d'admission. L'élève, en plus, sera rémunéré selon un certain barème, s'il est en première, en deuxième année, et selon aussi son âge, pour travailler. Et il paye pas ses frais de scolarité. Pour les entreprises qui cherchent une alternance, en fait, les entreprises cotisent à un OPCO. Donc, il y a plusieurs OPCO selon les secteurs. Et c'est l'OPCO qui va financer en partie la formation. Je crois que c'est jusqu'à 8 600 euros l'année qui est financée par l'OPCO. Et en plus de ça, pour la première année d'alternance, il me semble qu'il y a une aide d'État de 6 000 euros qui va en plus prendre en charge du coup une partie de la rémunération de l'étudiant et ainsi que les frais qui ont été mis en jeu pour prendre l'étudiant.
Exactement. En fait, c'est tout bénef pour une entreprise d'avoir des alternants parce que au final, je sais pas pour toi, mais quand j'étais alternante, je faisais le boulot que les personnes qui étaient formulateurs, quoi. Donc, au final, par rapport au salaire qui est payé et toutes les aides que les entreprises reçoivent, c'est plutôt bénéfique.
Ouais.
Et en fait, comme tu le dis, je pense que aujourd'hui, l'alternance, c'est vraiment la voie rêvée pour tout le monde, pour pouvoir accéder à des études qui auparavant étaient inaccessibles parce que beaucoup trop chères. Et je pense que c'est en partie pour ça que je le conseillerais à tout le monde. Moi, je sais que si j'avais pas eu d'alternance, j'aurais jamais pu faire les études que j'ai faites.
Ah ouais, oui, parce que c'est onéreux. Et là, du coup, tu disais que le nouveau MSC se faisait en 3 ans et que la première année était en continu. Ça veut dire que la première année, elle est financée par l'étudiant?
Ouais, exactement. Donc là, c'est vraiment, pour le coup, la partie qui est un peu dommage, je dirais, pour le MSC, c'est que la première année, je crois qu'elle est en plus à 8 600 euros, un truc du genre. Donc, l'élève doit la financer. Après, il y a la possibilité d'intégrer la formation en deuxième année, mais en fait, il y a beaucoup moins de place. Sur une promotion, par exemple, en deuxième année, qui doit être à peu près 20-23 élèves, il y en a peut-être 7 seulement qui seront sélectionnés pour intégrer la deuxième année. Et le double pour la première année. Donc, en fait, la sélection est quand même très rude si on veut passer directement par la deuxième année avec l'alternance et du coup ne pas payer de frais. Donc, je pense que c'est devenu un peu plus difficile d'accès.
D'accord, ok. Et est-ce que du coup, si la formation commence à partir de la troisième année, ça veut dire que ça s'adresse à des élèves sortis de DUT ou BTS ou...
Alors, en fait, la troisième année, c'est pour les élèves qui... la deuxième année, pardon, donc qui est en 3 ans, c'est pour les élèves qui ont déjà une licence, donc un bac plus 3. En revanche, la première année, elle est accessible à partir du bac plus 2. Donc, DUT ou d'autres bac plus 2, d'ailleurs. Je pense qu'on peut même y avoir accès à partir d'une licence 2, même si la licence n'est pas terminée. Donc, voilà.
OK.
Quand même qu'il y a des BTS qui peuvent le faire. Donc, pour le coup, en fait, il y a des avantages et des inconvénients parce qu'au final, la formation, elle s'est ouverte à plus de profils. C'est juste que le 8 000 euros à sortir, tout le monde n'a pas forcément les moyens de le faire.
Après, c'est une chance d'avoir les deuxième et troisième années en alternance et du coup prise en charge par les entreprises.
Exactement.
Et tu conseilles du coup les formations en alternance, toi, toujours ou en continu? Parce que je sais qu'il y a certaines entreprises qui ont des grilles salariales. Et si ta formation a été continue, potentiellement, tu peux avoir accès à un salaire un petit peu plus haut que si ta formation avait été en alternance. Tu as déjà entendu toi ou...
Non, je n'étais pas du tout au courant. C'est possible, mais je ne savais pas du tout. J'avoue que moi, pour le coup, je conseille plutôt l'alternance parce que c'est quand même un moyen d'avoir une expérience assez incroyable. Nous, en sortant de l'école, on avait 2 ans d'expérience. Et ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Même en faisant un stage de 6 mois, c'est quand même encore très junior. L'autre atout de l'alternance, c'est qu'on peut être regardé par son entreprise d'accueil, en fait, tout simplement. Et donc, c'est plus facile de trouver un travail à la sortie de l'école. On est un peu moins en galère. Enfin, je veux dire, il y a un moins grand nombre de personnes qui sont en galère pour trouver un nouveau boulot à l'issue d'une alternance, parce que bah, souvent, les entreprises décident de nous garder. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé quand j'ai fait ma seconde alternance, donc en marketing. J'ai été gardée par mon entreprise. Donc, tout s'est passé de façon très fluide. J'ai pas eu de stress pour chercher un travail, enfin, rien du tout. Et ça, on l'a pas quand on a fait une formation continue. Donc non, je conseillerais toujours à 1000% l'alternance. D'autant plus que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, quand on n'a pas d'expérience, c'est très compliqué de trouver un emploi. Quand on regarde sur LinkedIn les offres, même pour un junior, on demande qu'il ait fait une expérience en laboratoire ou qu'il ait fait une expérience dans une entreprise. Un stage, c'est souvent pas suffisant. Donc, alternance fois 1000.
Ouais, je suis assez team alternance aussi. Parce que comme on l'a dit, si on l'a fait une fois, enfin, le voir en théorie en cours, c'est pas pareil que le pratiquer. Et une fois qu'on l'a fait une fois, on est déjà beaucoup plus confiant, même si on savait dès le début ce qu'il fallait faire, on est plus confiant la deuxième fois qu'on l'a déjà fait parce que ça a déjà été fait. Hein.
Exactement.
On a déjà eu les obstacles, on a déjà vu tout ça. Bon, après, ce qui est sûr, tu disais que quand on était en alternance, on faisait un petit peu le job de nos collègues qui étaient là, mais il y a quand même une partie de formation et où on n'est pas autonome au début. Voilà, en alternance, ça demande quand même pas mal de formation au début. Je dirais bien au moins 2 mois pour prendre les machines en main, les projets en main, pour s'y retrouver, quoi.
Oui, tout à fait. Et je pense que de toute façon, pour tout boulot, on a toujours besoin d'une période un petit peu d'ajustement, d'adaptation pour prendre en main tous les outils, comprendre aussi tous les tenants et aboutissants du poste, parce que faire un entretien et dire à la personne en face de nous « oui, j'ai bien compris que vous aviez besoin de quelqu'un pour faire telle ou telle chose » et arriver sur le poste et devoir vraiment faire ces choses, c'est deux choses totalement différentes. Et en plus, je trouve que dans les entreprises, pour un même intitulé de poste, on n'a pas forcément les mêmes tâches, en fait. Donc, être chez L'Oréal et être chef de produit maquillage, peut-être que chez LVMH, le chef de produit maquillage ne fait pas exactement la même chose. Donc, il y a toujours un temps d'ajustement.
Oui, et puis la taille de l'entreprise importe beaucoup. Quand tu es dans une petite structure, ceux qui font le marketing, ils font aussi un petit peu une partie, discussion avec la R&D, mais aussi peut-être une partie réglementaire, peut-être aussi une partie contrôle qualité. Enfin, vraiment, en fonction de la taille de l'entreprise, les missions peuvent être très diverses d'un département à l'autre.
Exactement. Et d'ailleurs, ça, c'est aussi une chose qu'on me demande régulièrement, c'est savoir si c'est mieux de commencer dans une grande entreprise tout de suite ou d'aller dans une plus petite entreprise. C'est vrai que c'est compliqué, je trouve, à répondre parce que la grande entreprise, ça fait toujours bien sur le CV. Ouais. Mais la petite entreprise, on apprend plus, je trouve.
Ouais. Après, ça dépend. Je pense que la petite entreprise, tu touches à tout, ça c'est sûr, mais après tu vois moins dans les détails parce que tu as moins aussi de collègues experts à côté de toi. Généralement, quand tu es dans une petite entreprise, tu deviens vite l'expert, enfin après quelques années forcément, mais tu prends vite en charge les choses. Alors que quand tu es dans une grande entreprise, généralement tu as des expertises qui sont là depuis 20-30 ans, qui sont vraiment des experts dans le domaine et qui peuvent même te former après toujours un petit peu plus loin. Parce que si tu es dans une grande entreprise, tu as une mission qui est très centralisée sur un point. Et du coup, tu vas devenir expert dans quelque chose. Moi, je me rappelle j'avais travaillé chez LVMH, j'ai travaillé sur des gélifiants naturels. Je peux dire maintenant que les gélifiants naturels, je les connais. je sais leur toucher, leur sensorialité, je connais les inkies, je connais les fournisseurs. Enfin, voilà. Et ça va m'aider aussi dans mes autres entreprises derrière, dans mes autres boulots, de savoir si demain on cherche un gélifiant, moi, j'en connais plein. Par contre, à côté de ça, je ne vais pas savoir comment on évalue une date limite d'utilisation. Quoi. Comment la DLU, on l'évalue, je ne sais pas. Mais il y a des points, des bénéfices, je pense, et des désavantages dans chaque dans chaque partie. Bon, alors, j'avais une autre question pour toi. Je voulais en savoir un petit peu plus aussi sur Young Professional in Beauty, parce que pour moi, ça, c'est un peu un gros truc. Je vous suis sur les réseaux sociaux. J'adore la communication que vous faites, ce que vous en faites du réseau, cette proximité qu'on sent aussi avec vous, l'équipe, mais qu'on sent avec aussi les marques partenaires. Ouais. Dis-en-moi un petit peu plus.
Alors, Young Professionals in Beauty, c'est une association qu'on a lancée, en 2018. Donc, à la sortie de notre master en marketing. Et en fait, l'idée, c'était vraiment de créer un réseau de jeunes professionnels de la beauté parce que, en fait, on était tous, donc on sortait d'école. Et en fait, on se disait que, on n'avait pas beaucoup de réseau et que, mine de rien, tout le monde nous disait que avoir un réseau, c'est ce qui allait nous permettre d'avoir les meilleures propositions d'emploi et de s'intégrer le plus facilement sur le marché du travail. Sauf qu'en sortant d'école, qui a un réseau, en fait? C'est très compliqué. Et du coup, mine de rien, on a quand même fait le constat qu'on avait tous un mini réseau, un micro réseau même. Mais on connaît tous quand même une ou deux personnes par-ci, par-là. Et puis en plus, on a tous été en stage ou en alternance dans des entreprises. Donc au final, on connaît quand même deux, trois personnes. Et en fait, si on met bout à bout tous ces réseaux où chacun connaît deux, trois personnes, en fait, ça fait un grand réseau. Et donc, voilà, c'est comme ça qu'on a créé YPB. Et l'idée aussi, c'était de dépoussiérer un peu toutes ces associations de réseautage parce que il en existait déjà plusieurs. Donc nous, on arrivait en plus de ce qui existait déjà. Et donc notre parti pris, c'était d'être une association pour les jeunes parce que on est des jeunes professionnels et que quand on va dans ces associations, on n'est pas forcément hyper à l'aise, hyper à notre place parce que il y a déjà des groupes qui existent. Si on va par exemple au CEW et qu'on voit tous ces grands décisionnaires de grandes marques, on se sent un petit peu tout petit. Et puis on va pas aller au milieu d'une conversation, commencer à taper la discute. Hello, moi je suis jeune diplômée. On se sent pas forcément au niveau. Et là, l'idée, c'était vraiment que tout le monde ait l'impression, en tout cas, d'être au même niveau, que tout le monde puisse discuter avec tout le monde, qu'il n'y ait pas de barrière parce qu'un tel a un statut de je ne sais pas quoi et un autre est juste étudiant. Non, en fait, quand on arrive dans l'association, on est un Young Professionals in Beauty. Et en fait, on tutoie tout le monde, on parle à tout le monde, on rencontre des fondateurs de marques juste incroyables et en fait qui se mêlent aux discussions, aux fêtes, entre guillemets, aux after work avec nous comme si c'était des copains, quoi. Et c'est ça qu'on a voulu créer. C'est vraiment un réseau d'entraide, une safe place pour les jeunes professionnels de la beauté, où on n'a pas honte de poser des questions, où on n'a pas honte de demander des recommandations, de demander des conseils, et où on se retrouve pour passer des moments conviviaux auprès dans des after work avec des marques superbes qu'on connaît tous et ou des marques qu'on est en train de découvrir et partager aussi du savoir. Donc voilà, c'est tout ça, c'est un peu tout ça, YPB.
C'est beau, j'aime beaucoup. Et puis, vos after-works, vous en faites assez régulièrement. Je vous suis sur les réseaux sociaux quasiment mensuellement.
Oui, c'est ça. En fait, on a un événement par mois à peu près, que ce soit en digital, en physique ou autre. On va vraiment chercher à apporter du contenu régulièrement à notre communauté. Les événements physiques, c'est forcément ce qui est le plus dur à mettre en place parce que ça demande des locaux, ça demande la présence des gens en réel. Et donc parfois, c'est assez compliqué. Mais en même temps, c'est ce avec quoi l'association a commencé. Et c'est vraiment la promesse de départ de créer des after-work où les gens peuvent se rencontrer. Après, on a créé d'autres types d'événements parce qu'on s'est développé, qu'il y a eu d'autres besoins, que les gens, les adhérents de l'association nous ont fait part aussi de leurs envies. Donc, on a commencé à faire des coachings, des sessions de coaching sur les CV, les lettres de motivation, sur les réseaux sociaux. On fait aussi des conférences web ou des conférences en physique. Voilà, le but, c'est vraiment d'apporter de la valeur à tous les événements qu'on fait et que les gens qui viennent apprennent quelque chose et passent un bon moment également.
Génial, j'adore. Ok, super, merci beaucoup. Je dirais qu'on a bien clôturé cette première partie d'épisode et ça s'est très bien passé. Bravo, félicitations, haut la main.
Merci beaucoup.
Et ensuite, je voulais discuter un petit peu des écoles en cosmétique pour aider les auditeurs et les auditrices à trouver leur voie s'ils sont encore étudiants dans la cosmétique. Et savoir un peu vers quelle école partir, si on est en R&D, si on veut faire du marketing, s'il faut faire un bac plus 3, un bac plus 5. Est-ce que tu as des conseils, des recommandations, des écoles à nous conseiller?
Alors en fait, tout va dépendre de ce que la personne veut faire. Si la personne veut travailler à la paillasse, que vraiment son envie profonde, c'est de formuler des produits cosmétiques, de toucher de la matière, etc. Je pense qu'effectivement, un bac plus 3, c'est suffisant parce que elle sera technicienne supérieure. Elle sera, selon les entreprises, ça dépend. Enfin, les titres peuvent être très différents. Elle peut être formulatrice, elle peut être chef de projet, ça dépend. Mais en tout cas, elle sera à la PAIA, ça formulera. Et ça, avec une licence, c'est accessible, effectivement. Il y a des licences qui se font en alternance. Avec l'ISIPCA, il y en a une. Il y a également l'Université d'Orléans qui fait une licence professionnelle qui permet d'avoir cette expérience professionnelle en sortant de l'école et après de trouver un travail assez rapidement. En fait, il y a vraiment une multitude de formations qui se sont développées sur la cosmétique ces dernières années, j'ai l'impression. Il y a beaucoup d'écoles qui ont des UE cosmétiques, même si le programme est un programme un peu général, il va toujours y avoir une UE cosmétiques ou sciences du médicament ou ce genre de choses qui permettent de toute façon d'accéder à des postes de formulation. Après, si la personne, son souhait, c'est d'être cadre, c'est d'être chef de projet et donc d'avoir une vue un peu plus globale sur un développement de produits, dans ce cas-là, il faut plutôt s'orienter vers un master, même si en vrai, je pense que même avec une licence, c'est accessible. Le seul truc, c'est que ça va être accessible, mais de façon plus lointaine, ce sera pas accessible genre directement à la sortie de l'école et en plus les salaires seront pas les mêmes. En fait, les entreprises, elles ont des sortes de grilles de salaire et en fait pour une licence forcément la grille de salaire est un peu moins importante que pour un master. Et donc faire un master, il y en a plusieurs. On a parlé d'ISIPCA tout à l'heure. On a parlé de l'ESP également, qui a repris en fait l'ancien master en partenariat avec l'université de Versailles. Donc, a priori, c'est à peu près la même formation. C'est juste que du coup, elle est effectuée par un nouvel acteur qui est l'ESP, qui était déjà très connu pour le parfum. Mais donc, la cosmétique, ça fait 3 ans, je crois, si je dis pas de bêtises, ou 4, un truc du genre.
Ils sont à Versailles aussi, l'ESP ?
Alors, non, l'ESP, ils sont à Paris. Je crois qu'ils ont également un site à Grasse parce qu'à la base, ils étaient surtout centrés sur le parfum. Et en fait, la formation donc FESAPCA se fait également en alternance. Et donc les mêmes boulots sont accessibles via cette formation que via le MSC, Manager des process de création et développement des produits parfums, cosmétiques et aromatiques de l'ISIPCA. Après, donc, c'est des examens aussi d'entrée pour ces deux formations. C'est un oral de motivation également. Donc, c'est voilà, un processus en 3 étapes assez complexe, mais surmontable. Après, si la personne, son grand kiff, la naturalité, je pense que clairement, c'est le MPNC qu'il faut faire. Surtout aujourd'hui, je crois que les personnes qui font ce master vont être très appréciées des entreprises parce que la naturalité, c'est juste un sujet incontournable. Et donc, c'est vraiment un master stratégique. Donc, clairement, si aujourd'hui, je devais refaire l'ISIPCA, je pense que je ferais ce master-là et pas celui que j'ai fait. À l'époque, c'était ce qui m'intéressait. Je voulais faire de la formulation. Mais aujourd'hui, vu le tournant que l'industrie est en train de prendre, le MPNC, donc matière première naturelle cosmétique, c'est clairement un master stratégique.
Ouais, ça, c'était ma formation.
Ouais, exactement. Et d'ailleurs, est-ce que aujourd'hui tu vois justement que ça a été plutôt stratégique, même si je pense que tu l'avais pas imaginé comme ça. Je pense que tu pensais pas que la naturalité prendrait un pas énorme sur toute l'industrie de la beauté. Est-ce que du coup t'es contente de l'avoir choisi ou pas?
Ouais. Alors moi je l'ai choisi de base parce que j'avais une appétence pour le naturel. Enfin déjà en tant que consommatrice, je consommais des cosmétiques naturels, donc c'était vraiment ce qui me plaisait. Et en plus de ça, il était légèrement plus axé recherche que le FESIPCA à l'époque, parce que avec le master en matières premières naturelles en cosmétique, le MPNC, tu pouvais potentiellement peut-être déboucher sur une thèse un petit peu plus facilement. Donc ça, c'était un côté qui me plaisait aussi. Et tu étais scientifique, mais plus du côté matières premières, donc un petit peu avant la formulation du produit fini. Et ce qui était quelque chose qui me plaisait aussi, parce que c'est vrai que quand tu développes un produit fini, tu es plus dans le D de R&D, hein, tu es plus dans le développement. Et alors que quand tu es dans le développement de la matière première, d'un actif, en vrai, tu es plus dans la recherche. Tu es un petit peu l'étape encore d'avant dans le processus de développement du cosmétique. Donc ça me plaisait pas mal. Je pensais pas effectivement que cet engouement pour la naturalité allait rester aussi longtemps, même si moi perso c'est ce qui me faisait kiffer. Bon après je suis très contente, hein. Au final ça m'a bien servi. Moi toutes mes expériences professionnelles ont été faites en fait dans des développements naturels. J'ai jamais travaillé dans le synthétique, jamais. J'ai dû formuler une fois avec du silicone pour faire une comparaison, mais c'est tout. Donc oui, moi je suis très spécialisée en fait naturelle, donc je pense que c'est une force si je veux trouver un emploi à venir, mais je pense que c'est aussi peut-être une faiblesse si je veux me diversifier dans autre chose.
D'accord, ouais, je comprends. Mais c'est vrai que en fait j'ai l'impression qu'il y a des étapes. Après j'ai l'impression aussi que c'était, enfin la naturalité c'est plus une genre révolution que une mode, tu vois, qui va s'évanouir. Et du coup même si, dans tous les cas, le synthétique sera toujours là parce que c'est utile et parce que c'est pas que du négatif, comme certains peuvent le croire, la naturalité, je crois qu'elle est... Enfin, il y a encore assez peu de gens qui la maîtrisent bien. Je crois que c'était très challengeant de réussir à faire des formules qui étaient qualitatives d'un point de vue sensoriel et stable, et qu'aujourd'hui, on arrive à faire des trucs qui sont vraiment très sympas. Et du coup, j'ai l'impression qu'on est encore au début en fait de cette cosmétique. Donc pour l'instant, je crois que vraiment, tu n'as rien à craindre de ce côté.
Ouais. Bah, je pense que en fait, ça a commencé il y a quelques années où les consommateurs voulaient du naturel, mais en fait, sur le marché pour les formulateurs, il n'y avait pas assez de matières premières qui étaient mises sur le marché pour les aider à formuler de manière, avoir une senso élégante, une bonne stabilité, une bonne efficacité. Et du coup, le temps que les fournisseurs de matières premières s'y mettent à eux sortir leurs actifs, sortir leurs matières premières, même matières premières fonctionnelles en vrai, parce que c'est ça qui manquait, je pense, majoritairement, que ce soit des émulsionnants, que ce soit des gélifiants, des conservateurs. Donc, à sortir leurs matières premières qui soient acceptées dans les standards, que ce soit Cosmos ou en tout cas en termes de naturalité, qui ont un beau taux de naturalité, que ensuite les formulateurs apprennent à s'en servir pour développer des formules convenables, stables, et qu'ensuite ça sorte sur le marché. En fait, il y a un laps de temps qui est quand même de au moins 5 ans facilement, même je dirais plus 8 ans, pour aller d'un point A à un point B. Donc en fait, je pense que là, on voit vraiment les matières premières qui émergent en naturalité et on peut s'en servir de plus en plus.
Ouais, c'est vrai. C'est vrai que les gens ne se rendent pas compte en fait, que ça prend autant de temps de changer une industrie, en fait, tout simplement. On a l'impression que aujourd'hui, on va avoir une information très stratégique en nous disant que les ressources sont en train de s'épuiser, etc. Et en fait, les gens s'attendent à ce que demain, du coup, on fasse des produits qui correspondent tout à fait à cette nouvelle, ce nouveau paradigme, alors qu'en fait, ça prend beaucoup plus de temps que ça pour développer. Donc, c'est vrai que c'est ça qui est compliqué aussi dans la cosmétique, c'est qu'on a des laps de temps qui sont très difficiles, déjà, rien que pour développer un produit cosmétique, mais comme tu le dis aussi, pour les matières premières. Et ça, on s'en rend pas forcément compte. Tu vois, moi, j'ai jamais travaillé en matières premières, donc effectivement, j'avais pas forcément cet aspect-là du développement.
Ouais, en fait, l'industrie cosmétique, il y a plein de sous-métiers qui sont nécessaires chacun aux autres pour que le produit arrive sur le marché, même en termes de réglementation. Enfin, je veux dire, il y a eu, je pense aussi, un gros boulot sur la réglementation. Enfin, déjà, on a vu toutes les certifications bio d'Europe qui se sont mis ensemble, qui ont créé un standard commun qui s'appelle maintenant Cosmos. Mais avant, on avait EcoCert, on avait Natru, on avait Soil Association en fonction des pays. Et du coup, et même au niveau... réglementation, standards, etc. Faut que ça centralise, faut que ça se mette en place en fonction des demandes des consommateurs.
Ouais, c'est ça. Exactement, pardon. Et surtout que, enfin, toutes ces associations de naturalité, enfin, je trouve que c'était quand même assez compliqué à comprendre pour tout un chacun et savoir quand tu retrouves le logo sur ton produit, qu'est-ce que ça veut dire. Donc, donc c'est bien quand même que ça ait été un petit peu lissé et que voilà. Enfin, de toute façon, j'ai l'impression qu'au fur et à mesure, il y a de belles évolutions qui se font dans la cosmétique et qu'on arrive vers une industrie qui est de plus en plus vertueuse.
Ouais, carrément. Alors, j'avais une petite question. On récapitule les écoles. Donc, tu nous as parlé de l'ISICA, tu nous as parlé de l'université d'Orléans.
L'ESP.
Ouais, l'ESP de Paris, du coup.
Exactement, Orléans, yeah. Effectivement. Donc, Orléans, ils ont la licence professionnelle, ils ont un master professionnel aussi dans la cosmétique. Et en fait, c'est hyper stratégique parce que autour d'Orléans, il y a pas mal d'entreprises cosmétiques, puisqu'en fait, c'est un peu le centre de la cosmétique Valais.
Ouais.
Et du coup, c'est un endroit vraiment très stratégique pour la cosmétique. Après, il y a d'autres masters. Il y a Le Havre. Donc, c'est un des masters auxquels j'avais postulé, moi, avant de faire l'ISIPCA. Donc, j'avais été retenue en entretien. J'avais même été prise, d'ailleurs. Mais finalement, comme j'étais prise à l'ISIPCA, j'ai pas fait le master au Havre. Il y a l'université de Guingamp, donc en Bretagne, l'UCO, qui fait un concours, d'ailleurs, célèbre tous les ans, un concours d'innovation pour les étudiants. Et en fait, cette université, elle est top si on veut travailler plus du côté industriel, parce que je pense que c'est la seule université où il y a des vraies machines industrielles. Il y avait pas ça à l'ISIPCA, je pense qu'il y a pas ça dans d'autres écoles. Donc les gens ils peuvent vraiment travailler sur des grosses machines qui permettent de faire de la montée industrielle, la montée en échelle et du coup des formules au stade industriel, quoi. Donc t'as ça, après t'as Nantes aussi, TAPCOS le master, t'as Montpellier aussi avec l'ICAP, il y a Marseille également avec un master cosmétologie. Donc il y en a vraiment beaucoup. Il y a Nice aussi avec, alors celui-là je crois qu'il est plus orienté parfum, c'est un master focal, enfin une formation focale. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup de masters, il y a des écoles d'ingénieurs aussi. Moi, j'avais postulé à Lyon, à l'ITEC, qui est une école d'ingénieurs qui est spécialisée dans la formulation, mais pas uniquement en cosmétique. Je sais qu'ils font également des peintures et ils doivent faire un autre... Je crois qu'ils ont une autre spécialité. Donc, on peut travailler en formulation, mais dans toute l'industrie. Et d'ailleurs, c'est vrai que les gens, quand on ne fait pas partie de l'industrie cosmétique, on ne s'en rend pas forcément compte. Mais en fait, parfois, on est un peu en compétition avec d'autres industries, comme l'industrie de la peinture ou l'industrie automobile, notamment pour les nacres. Parce que les nacres qui sont sur les voitures sont faites par les mêmes industriels qui font les nacres pour les cosmétiques. Donc parfois, il y a des compétitions comme ça, il y a des ruptures à cause de ça. Donc, c'est assez marrant quand on fait partie de cette industrie de se rendre compte de ce genre de choses. Et en école d'ingé, il y a aussi l'ESCOM à Compiègne, qui est une bonne école d'ingénieurs pour les gens qui veulent travailler en formulation cosmétique. Et après, si on veut faire plutôt du marketing, en fait, on n'a pas vraiment besoin de faire une école spécialisée dans la cosmétique. Il y a l'ISIPCA qui a son master MIPC, qui est spécialisé dans la cosmétique, qui est en partenariat aussi avec l'ESSEC, donc qui permet vraiment d'avoir cette double compétence et vraiment cosmétique de fond et commercial marketing avec l'ESSEC et avec des intervenants juste incroyables. Vraiment, moi, le MIPC, ça a été une de mes meilleures années d'études. Mais en fait, moi, je connais des gens en marketing qui sortent de toutes les écoles. J'ai pas l'impression qu'il y ait une tendance particulière qui se dégage quand on est en marketing. Vraiment, les gens viennent de partout. Moi, j'ai un parcours un peu scientifique et marketing. Il y en a de plus en plus, mais en fait, c'est pas du tout la majorité. Souvent, les gens ont fait des écoles où il y avait même pas vraiment de spécialité cosmétique, quoi. Donc, pour le coup, si vraiment son but, c'est de faire du marketing, pas besoin de... Enfin, il n'y a pas d'école spécifique. Après, il faut peut-être juste viser les meilleures écoles en marketing, quoi, tout simplement.
D'accord, ok. Est-ce que tu as des petites astuces, des petites recommandations pour réussir les concours d'admission ?
Bah, allez voir mon blog.
Est-ce que tu peux nous redonner l'adresse, savoir où on peut te trouver si on veut travailler avec toi ?
Bien sûr. Alors, du coup, le blog, c'est Le Rouge, comme rouge à lèvres, Le Rouge, by Jane, comme Jane, J-A-N-E. Vous pouvez me retrouver aussi sur Instagram, c'est également le même nom, donc Le Rouge by Jane. Sinon, vous pouvez aussi suivre mon association Young Professionals in Beauty sur Instagram et sur notre site, donc youngprofessionalsinbeauty.com.
Voilà. Ok, super. Bon, bah, merci beaucoup pour ton temps aujourd'hui, pour tous tes conseils, pour ton retour d'expérience, c'était top. Merci.
Bah, merci à toi pour l'invitation, c'était vraiment superbe. Voilà, j'ai hâte d'écouter le podcast.
Super, merci, bye.
Ciao.
Alors, pour résumer toutes les différentes formations qu'on a pu citer dans cet épisode, il y a pour les cursus scientifiques l'ISIPCA, donc qui est une école à Versailles, et d'ailleurs dont les portes ouvertes sont le samedi 1er avril 2023, qui a différentes formations. Il propose une licence professionnelle chimie appliquée de la cosmétique avec l'Université de Versailles. Les admissions sont passées, elles étaient de novembre à février 2023. Il propose le master en alternance matières premières naturelles en cosmétique, qui est un tiers de biologie, un tiers de chimie et un tiers de cosmétologie, avec l'Université de Versailles. Les admissions sont en cours depuis décembre et jusqu'au 18 avril 2023 pour la première année. Propose également le Bac plus 5, manager des process de création et développement des produits parfums cosmétiques et arômes alimentaires, accessibles à partir du Bac plus 2. C'est la formation qu'on a appelée MSC, qui sont les acronymes de Master of Science. Et les inscriptions étaient de décembre à février ou mars selon l'année à laquelle on candidate. Il y a également l'École supérieure du parfum, l'ESP, à Paris, qui propose un master formulation, évaluation sensorielle et analyse des industries de la parfumerie, de la cosmétique et de l'arôme alimentaire, donc le FESAPCA. L'admission est en cours, elle a commencé le 22 mars et se terminera le 18 avril 2023 sur le site monmaster.gouv. Donc ça sera les dates d'inscription pour tous les masters que je vais citer ci-après. On a également mentionné l'IUT d'Orléans qui propose un BUT chimie parcours matériaux et produits formulés avec une admission post-bac, donc sur Parcoursup, sur lequel on doit confirmer ses vœux avant le 6 avril, ou un master chimie moléculaire parcours bioactif et cosmétique en initiale ou en alternance. Il y a également l'Université du Havre qui propose un master chimie ARPAC, donc arôme, parfum et cosmétique. Il y a l'Université catholique de l'Ouest, l'UCO, en Bretagne à Guingamp, qui propose un master biotechnologie parcours ingénierie des produits et des process cosmétiques, qui peut se faire en alternance ou en initiale. Il y a l'Université de Nantes qui propose une licence pro bio-industrie et biotechnologie parcours biotechnologie en santé et alimentaire. La candidature se fait du 4 avril au 5 mai. L'Université de Nantes propose également un master sciences du médicament et des produits de santé parcours topique et cosmétique, le TOPCOS. Ou il propose également un diplôme universitaire cosmétique au service de la santé cutanée. Donc ça s'adresse aux docteurs, aux infirmiers ou aux préparateurs en pharmacie. Ça, les candidatures vont s'ouvrir le 5 juin. Il y a l'Université de Montpellier qui propose un master ingénierie des cosmétiques, ICAP, qui peut se faire en initiale ou en alternance. Il y a la Faculté de pharmacie de Marseille qui propose également un master ingénierie de la santé, parcours médicaments et produits de santé dermocosmétologie, qui peut se suivre en initiale ou en alternance. Il y a l'Université Côte d'Azur à Grasse qui propose un MSC arôme et parfum. Et ensuite, on a mentionné deux écoles d'ingé, l'ITEC à Lyon qui propose un diplôme d'ingénieur, majeur chimie des formulations. Donc l'admission se fait sur Parcoursup si on veut intégrer les classes préparatoires. Et l'ITEC propose également un master, donc Bac plus 6, responsable projet industrialisation cosmétique. Donc, il y a une visioconférence qu'on peut suivre le 4 avril ou le 27 avril pour en savoir plus sur ce diplôme. Et ensuite, la deuxième école d'ingé, c'est l'ESCOM à Compiègne qui propose un diplôme d'ingénieur majeur produits formulés et applications. Pour les cursus marketing, on a parlé du MIPC de l'ISIPCA et de l'ESSEC. Mais sinon, toute autre école de marketing est bonne à prendre. Et ensuite, pour finir, les réseaux professionnels de la cosmétique dont on a parlé, c'est YPB, Young Professional in Beauty, et CEW. J'espère que cet épisode vous a plu et que vous en savez plus sur les admissions dans les formations de l'industrie cosmétique. Alors, comme toujours, vous pouvez retrouver les notes de cet épisode, et notamment les réseaux sociaux de Jeanne, ainsi que la liste de toutes les formations avec leur date pour laquelle on peut candidater sur mastelcosmetics.com dans la rubrique podcast. Sur ce même site internet, vous pouvez aussi découvrir la crème et l'huile de Mastel, qui sont des soins bio, riches en antioxydants, pour protéger votre peau des agressions extérieures, comme la pollution, la fumée de cigarette, le soleil ou même la climatisation, qui, eux, accélèrent le vieillissement cutané. Je vous souhaite une excellente semaine. Prenez soin de vous en attendant le prochain épisode. Bye !